Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, pour qui roule le FMI ? Le 18 décembre dernier, le Congrès américain a finalement donné son feu vert à la réforme du FMI. Une réforme annoncée il y a 6 ans déjà et attendue avec impatience par les pays émergents. La Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie disposeront désormais de pouvoirs de vote élargis au sein du conseil d'administration. Il faut dire que le système de décision n'est pas particulièrement démocratique au FMI. Le droit de vote dépend des fonds versés. Autrement dit, plus vous êtes riche, plus votre pouvoir est important. Mais finalement, que changera cette réforme à la politique du fonds ? Car si le FMI sert parfois les intérêts de ses plus gros actionnaires, ce n'est pas la principale critique qui lui est faite. Bête noire des altermondialistes dans les années 90 et surtout après la crise argentine de 2001, l'institution est surtout accusée d'être le fer de lance des politiques néolibérales. Et pourtant le fonds évolue sur sa philosophie comme sur ses règles de gouvernance, mais au service de quels intérêts et de quelles politiques ? Pour qui roule le FMI, c'est notre sujet du jour. Et nous en discuterons avec 3 invités. Dominique Caro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de droit international économique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes auteur de Le Fonds monétaire international aux éditions Pédone en 2009. À vos côtés, Stéphane Cossé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, vous avez exercé au FMI de 1994 à 1997 et puis sur une autre période de 2000 à 2006. Vous faites partie du conseil d'administration du think tank Europa Nova. Je l'ai mentionné, vous avez été donc économiste senior, hein, c'était là. Voilà, économiste au FMI, ça consiste en quoi ? C'est un travail essentiellement de prévision, d'évaluation des pays membres ?
Alors, on va faire peut-être une courte réponse, que ça pourrait être très long.
Pour nous donner une petite idée.
En fait, c'est 2 choses. La première, c'est que dans chaque pays du monde, membre du FMI, on fait une photographie annuelle de la situation. Dans le jargon du FMI, ça s'appelle la consultation de l'article 4 des statuts du FMI. Donc c'est une photographie, donc on se rend sur le terrain pendant 15 jours, on fait un bilan et on écrit un rapport. Et la deuxième chose, c'est que on peut contribuer à l'élaboration des fameux programmes du FMI. Et là, nous sommes dans une mission avec plusieurs collègues et nous nous rendons sur le terrain souvent tous les 3 mois pendant 15 jours. Et là, nous discutons avec les autorités sur comment mettre en œuvre la politique économique dans le cadre du programme du FMI.
On reviendra justement sur le cœur de ces programmes. 3e invité, Natacha Valla, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice adjointe du CEPI. Le CEPI, c'est le centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale, où vous êtes directrice du programme macroéconomie et finances internationales. Et je mentionne que vous avez aussi été consultante pour le FMI. Alors justement, entre ce que vous décriviez, Stéphane Cossé, les programmes d'aide et les prévisions pays par pays, 188 membres au FMI, Natacha Valla, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le FMI est devenu un acteur central, voire un acteur incontournable des institutions internationales ?
Alors le FMI, c'est un acteur effectivement incontournable, ce n'est plus le seul, c'est loin d'être le seul, et le monde a beaucoup évolué. Le FMI est central parce que c'est une instance de coordination, une instance de stimulation des sources de statistiques économiques, macroéconomiques, financières, nationales. Donc c'est grâce au FMI qu'on a des données, notamment des balances des paiements qui sont harmonisées. C'est grâce au FMI qu'on a une bonne connaissance des flux financiers, des flux commerciaux au niveau mondial. Cela dit, il y a aussi d'autres acteurs qui sont arrivés sur ce champ-là. On sait que, par exemple, les banques centrales deviennent de plus en plus performantes dans l'analyse des flux financiers. Donc on a, aux côtés du FMI, j'allais dire, des ministères des Finances, des banques centrales qui sont capables aujourd'hui d'avoir une analyse de meilleure qualité qu'avant, en partie aussi parce que le FMI a transmis du savoir-faire dans ce domaine-là. Donc le FMI aujourd'hui, c'est un acteur de grande qualité, mais qui doit aussi se poser des questions sur la nature de l'information qu'elle produit, la façon dont cette information va être exploitée par les pays membres, mais aussi par la communauté des chercheurs, etc.
Dominique Caro, vous partagez le constat et peut-être la définition que vient de nous donner Natacha Valla du FMI ?
Tout à fait, c'est une économiste distinguée. Moi, je ne suis qu'un juriste éminent, donc je n'ai pas exactement, si vous voulez, le même type d'analyse, parce que toutes les informations économiques que le FMI donne, il s'en sert aussi. Et il s'en sert aussi à l'égard d'une catégorie de pays, aujourd'hui malheureusement très importante, qui sont les pays endettés. Et un pays endetté, le général de Gaulle l'avait trouvé quand il était en France, il est revenu en 1958, la France était endettée, il avait dit un pays endetté n'est plus un pays souverain, il faut donc rembourser les dettes. C'est pas le cas aujourd'hui, on le sait pour beaucoup de pays. Comme ils sont obligés de demander l'aide du Fonds monétaire international, le Fonds monétaire se sert de toutes ses connaissances qu'il a accumulées pour justement, allez on va le dire le mot, ça va peut-être faire réagir, dicter des programmes plus ou moins négociés avec les équipes du Fonds monétaire international qui lui rendent visite.
Alors dernier cas en date, samedi dernier, le Parlement ukrainien a finalement voté un budget qui prévoit de ne pas dépasser 3,7% de déficit. C'était une limite imposée. Alors imposer, c'est peut-être pas le mot, mais on va en discuter, par le FMI en échange de son aide financière, des programmes de réforme contre un soutien financier. C'est la définition qu'on peut donner des missions du FMI aujourd'hui, Stéphane Cossé.
Moi, je crois qu'il faut revenir d'abord sur les origines du FMI pour bien comprendre notre débat ce soir. Le FMI a été constitué après la Seconde Guerre mondiale parce que on voulait éviter qu'il se reproduise ce qui s'était passé entre les deux guerres. Entre les deux guerres, on a vu des dévaluations compétitives, on a vu des économies se battre les unes contre les autres, un repli sur soi. L'Allemagne qui est partie sur l'idée que son espace économique était insuffisant, il fallait un Lebensraum beaucoup 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 plus important, et que petit à petit, eh bien, ces économies, au lieu de coopérer ensemble, eh bien, elles ont décidé de se battre, et finalement, on est arrivé jusqu'à la guerre. Il y a une dimension économique dans la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, après cela, on a dit plus jamais cela. Et plus jamais cela, ça veut dire on constitue un fonds, ensemble, toutes les économies mondiales, et ce fonds va être un fonds pour venir aider les pays en fonction de leur situation économique. Et lorsqu'elles sont en crise, plutôt qu'elles se replient sur soi, eh bien, c'est de venir les aider. Mais comme toute personne qui vient en aider une autre, c'est de dire on est prêt à vous aider, mais à certaines conditions. Cette condition, c'est que l'on puisse se faire rembourser ensuite. Et l'Ukraine, c'est toujours cela. Lorsqu'on dit 3,7% de déficit, ça veut dire que derrière, eh bien, il y a l'espoir que si on lui prête des ressources, c'est pour se faire rembourser ensuite ces ressources-là. Sinon, cela ne peut pas fonctionner.
Alors, le rôle et les missions qui ont été écrites et définies en 1944 ont tout de même évolué depuis 70 ans. Est-ce que aujourd'hui, les missions ont été vraiment clairement redéfinies en fonction d'un contexte économique qui a quand même beaucoup changé? Est-ce que la mission, elle, du FMI a été clairement redéfinie, Natacha Valla?
Ce qu'il faut, pour continuer sur le contexte, effectivement, de la création du FMI. Le FMI a été créé dans un système monétaire international qui était un système de change fixe, où donc effectivement les guerres d'échange étaient vraiment très problématiques parce qu'on devait tenir une parité par rapport à l'or, c'était le gold standard, l'étalon or. Or tout ça a volé en éclats, on le sait pour diverses raisons, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui, mais depuis 71, en gros, on a un système de change flexible où les problématiques les plus importantes ont changé.
Vous voulez dire, pardon, qu'en 1970, quand on est passé d'un système donc fixe à un système flexible, quelque part, le FMI a perdu un peu sa raison d'être à ce moment-là?
De fait, elle a perdu sa raison d'être initiale. Alors, elle en a gardé une qui est encore aujourd'hui très importante, qui est celle de la stabilité financière. Et c'est sur ce terrain que le FMI définit sa légitimité. Un épisode très important dans l'histoire très récente du FMI, ça a été celui de l'implication du FMI dans la crise européenne. On y reviendra, mais le FMI a changé complètement de paradigme à partir du moment où il s'est impliqué sur des programmes pour des pays membres de la zone euro, dans des amplitudes qui sont pas sans précédent, mais pour certains sans doute presque, en tout cas en pourcentage du PIB sur la Grèce, ça l'a certainement été. Et le FMI est revenu sur des principes fondateurs de ces conditions, sa fameuse conditionnalité de prêt. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je pense que de ce point de vue-là, la philosophie du FMI a été, on a forcé la main du FMI, et ça c'est un état de fait aujourd'hui avec lequel l'institution doit vivre. Et puis un autre chapitre, chapitre sur lequel on reviendra peut-être aussi, c'est que le FMI, ce n'est pas la seule institution qui est capable de prêter aujourd'hui. Si vous faites la somme de toutes les initiatives régionales, que ce soit l'initiative de Chiang Mai en Asie, le mécanisme de stabilité européen, le MES, qu'on a créé pendant la crise, si vous faites la somme de toutes ces entités-là, on a une capacité, une force de frappe qui est aujourd'hui bien plus importante que celle du FMI. Donc, remise en cause en termes de taille aussi.
Dominique Caro, vous comparez le FMI au phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Vous vouliez peut-être réagir, dans votre livre, pardon, vous vouliez réagir au propos de Natacha Valla.
Vous m'avez bien lu. Mais parce qu'il y a, avant la crise qu'on a eu des subprimes, le Fonds monétaire international, on n'en parlait plus. Il avait presque disparu des radars. On verra peut-être pourquoi. Et puis il est revenu avec la crise. Et une chose qui a été dite, et je veux y revenir, c'est très important, quand le FMI met des conditions, c'est pas pour jouer les pères fouettards, c'est parce que c'est non seulement son argent, mais c'est l'argent des pays membres, et c'est l'argent des contribuables. Donc c'est pas comme quand il y a une fameuse coupe de cheveux, haircut, pour les banquiers privés. C'est des pertes privées. Là, c'est des pertes publiques et qui s'imputeraient dans des dépenses elles-mêmes publiques. Donc c'est pour ça que le Fonds monétaire international doit être rigoureux. Et ça n'a pas changé. Et il y avait des possibilités qui ont été éliminées. C'est que le Fonds monétaire international fasse appel au marché privé, comme la Banque mondiale. On ne l'a pas voulu. Donc ces créanciers sont uniquement des États. Donc il doit être très très prudent dans le contrôle de l'utilisation de ces fonds.
Donc on a bien compris, l'objectif, effectivement, c'est d'être de ces fonds d'aide, c'est qu'à la fin, ils soient remboursés par le pays qui en a bénéficié. La question peut-être, c'est les moyens par lesquels ce pays va arriver à les rembourser. Et donc, si on revient un instant sur le cas de l'Ukraine, il y avait donc cette limite dans le déficit à ne pas dépasser, mais il y a aussi des réformes structurelles, l'abolition des privilèges fiscaux, l'élargissement de la base fiscale, la réduction de la dépense de l'État. Pour la Grèce, on a vu d'autres choses sur les salaires des fonctionnaires, etc. Qui décide, Stéphane Cossé, du contenu de ces réformes ?
C'est intéressant ce que vous dites, justement, parce que, oui, le système monétaire international a changé. Oui, beaucoup de choses ont évolué en matière de prééminence des États. Mais il reste que l'approche du FMI reste la même. Et moi qui ai travaillé, par exemple, sur le Tchad ou le Pakistan... Mais j'avais pas une approche qui était fondamentalement différente, parce que l'équation économique reste la même entre ces pays-là. Si on vit au-dessus de ses moyens, d'un point de vue budgétaire, eh bien, il faut réduire les dépenses ou augmenter les recettes, quel que soit l'État concerné. C'est ce que vous dites en parlant de réduction des salaires des fonctionnaires, en parlant de privatisation, ce qui veut dire plus de recettes. Donc, d'un pays à l'autre, et ça peut être le cas pour la France ou l'Italie ou un autre État, eh bien, ces recettes, elles sont similaires. Alors, on peut dire après que c'est l'amplitude de ces recettes qui est en question, et c'est cela qui est souvent discuté. Mais il reste que quand le déficit budgétaire est trop élevé, il y a des recettes et il y a des dépenses d'un côté. Lorsqu'il y a de l'inflation, pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation? Parce que il y a soit trop de dépenses publiques, soit trop de dépenses privées. Lorsque un pays n'arrive plus à importer, c'est qu'il a des problèmes de compétitivité. Et s'il n'arrive plus à importer, c'est-à-dire que la valeur de sa monnaie, petit à petit, se dévalue, qu'il n'y a plus de réserve à la Banque centrale et qu'il a besoin d'aide, justement. Le FMI, c'est un peu un pompier, en quelque sorte. Il vient aider lorsqu'il y a le feu. D'ailleurs, c'est souvent ce que l'on dit, c'est que lorsque le feu est éteint, c'est grâce au gouvernement. Mais lorsqu'il n'est pas éteint, c'est à cause du FMI. Donc on a toujours, de toute façon, cette problématique-là. Il jouera toujours le rôle de bouc émissaire, de celui qui vient au mauvais moment. Quelles que soient les décennies, ça a toujours été ce rôle-là.
Alors justement, depuis 1944, est-ce qu'il existe des évaluations et des performances et de la pertinence des actions du FMI au regard de ses missions, Natacha Valla ? Alors ça, qui évalue le FMI?
C'est une très bonne question. J'aurais pas de réponse. Il y en a peut-être une, mais en tout cas, je la connais pas. Ce qui est sûr, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que il y a quand même une philosophie des programmes du FMI. Et effectivement, on a une péréquation budgétaire à respecter. Tous les États doivent, dans la contrainte budgétaire intertemporelle, rester dans les clous, si je puis dire. Il y a l'autre volet des politiques de conditionnalité du FMI, donc les conditions qui sont appliquées à un pays pour qu'il ait accès à ce sauvetage financier, qui sont liées aux réformes structurelles. Et là, quand on parle des réformes structurelles, on parle très souvent de réformes sur le marché du travail, aussi réformes sur les marchés des biens et services, libéralisation, etc. Là, je pense que le FMI a fait un peu son mea culpa. Je pense qu'effectivement, il y a eu des calendriers d'application des réformes qui ont été très maladroits, très souvent, dans des circonstances très diverses. Mais au bénéfice du FMI, je pense que la réflexion aujourd'hui, même au sein du FMI, est beaucoup plus riche qu'auparavant. Et en tout cas, le FMI me semble beaucoup moins dogmatique qu'auparavant. Il y a peut-être une dernière chose à ajouter, c'est que le FMI a fait des gros compromis, dans le cas de la Grèce notamment, on y reviendra sans doute. Ces compromis-là, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée de les avoir faits. Je prends par exemple le fait que, pour la première fois, la première fois de façon conséquente dans son histoire, le FMI a accepté de rentrer dans un programme, de cofinancer un programme, sans que la trajectoire de la dette publique de l'État concerné soit jugée stable, ou en tout cas viable soutenable. Soutenable à long terme. Donc c'est un des quatre principes fondateurs du prêt du FMI, pour que le FMI soit capable de prêter à grande échelle à un État. Or, on se rend compte aujourd'hui que si on avait fait un travail beaucoup plus, finalement, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus ouvert en termes d'ouverture d'esprit sur la soutenabilité de la dette publique grecque, si on avait été capable, tous les acteurs autour de la table avaient été capables de dire finalement non, la dette grecque n'est pas soutenable, il faut en effacer une partie, il faut en rééchelonner une autre, on aurait évité beaucoup beaucoup de déboires depuis 2010 et on est encore aujourd'hui avec cette même question sur la table. Or ça, c'était un principe du FMI et je pense que c'était un bon principe du FMI qui était de dire on a besoin, entre guillemets, d'effacer une partie de la dette pour que les compteurs soient remis d'une certaine manière à zéro, afin de remettre le pays sur ses pieds de stabilité macroéconomique.
Et en même temps, Natacha Valla, revenir sur certains principes, ça peut aussi être la preuve d'une capacité d'adaptation à une situation économique qui évolue et à des cas qui peuvent paraître justement premiers et sur lesquels on n'a pas encore eu d'expertise, Dominique Caro.
Non, mais je vais revenir un peu sur cette question de la dette, parce qu'il faut quand même distinguer essentiellement la dette privée de la dette publique. Le Fonds monétaire, jusqu'à présent, il avait parlé toujours de la dette privée. La dette publique, c'est à son égard à lui, et le Fonds monétaire international, il s'est fait même reconnaître par le MES la priorité, la super priorité de sa dette, ce qui veut dire que les créances du Fonds monétaire international doivent toujours être honorées. S'il y en a une dans le monde, c'est les siennes. Et après, il ne peut pas s'amuser à manipuler les créances sur ces États. C'est de l'argent public, une fois encore. Le Fonds monétaire international, lorsqu'il est intervenu sur les dettes, est intervenu sur les dettes privées, et il a mis dans ses programmes, effectivement, et ça a nécessité l'accord des banques, des arrangements avec les banques pour que les banques acceptent la fameuse coupe de cheveux, haircut, et dans le cas de la Grèce, ça a marché, 70% quand même de dettes privées éliminées. Alors maintenant, on dit, le Fonds monétaire international n'a pas été jusqu'au bout de sa logique parce que il y a la dette qui reste et qui est une dette, mais là, qui est publique. Donc on ne manipule pas la dette publique comme la dette privée, c'est l'argent de tout un chacun.
Dans tout le pays, les manifestations succèdent aux manifestations. Et forcément, lorsqu'elles dégénèrent, les institutions et les banques sont les premières visées. Les Argentins n'ont plus le droit de tirer de l'argent de leur propre compte. Une mesure destinée à combattre une éventuelle fuite des capitaux. La situation est sous contrôle. Et je rends hommage au caractère pacifique des Argentins. Pacifique peut-être, vitupérant sûrement. Les quolibets pleuvent sur le président à sa sortie. Mais il voulait dédramatiser pour convaincre le Fonds monétaire international de verser l'aide promise, 1,3 milliard de dollars bloqués depuis août dernier. Le FMI veut obliger le ministre argentin de l'économie à réduire les dépenses prévues en 2002. Le Parlement argentin refuse de voter un budget de rigueur et le FMI s'obstine. Pas d'argent pour l'Argentine.
C'était un extrait de Faillite en Argentine, un reportage de Jean-Yves Perrin diffusé le 19 décembre 2001 sur France 2. Est-ce que dans ce cas de bras de fer avec le gouvernement argentin, on a pour la première fois, Stéphane Cossé, une dimension politique qui apparaît dans le rôle du FMI, en tout cas aux yeux de l'opinion publique, une politisation du rôle du FMI?
Alors, je ne sais pas si c'est exactement cette année-là, mais c'est un cas très intéressant puisque finalement, l'Argentine a dit non au FMI. C'est-à-dire qu'elle n'a pas décidé de ne pas recevoir de fonds du FMI, de ne pas avoir de programme avec le FMI et s'en sortir seule. Et l'Argentine s'en est sortie. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé de passer par les fourches codines, hein, comme diraient les journalistes, pour finalement s'en sortir. Ça a probablement été tout aussi douloureux. Ça a probablement été tout aussi douloureux parce que, par exemple, les banques ne voulaient plus prêter aux Argentins, hein, notamment en dollars, donc c'était plus compliqué. Mais il a fallu faire les mêmes réformes, simplement, peut-être avec l'impression qu'on avait, en termes de souveraineté, plus de souveraineté qu'on en aurait eu si le FMI avait eu un programme. Et donc, il n'y a eu aucune relation pendant des années. Il n'y a plus eu de mission du FMI, par exemple, qui se sont rendus en Argentine. Il n'y a pas eu de fameux article 4 dont je parlais. On ne faisait plus de photographie de la situation annuelle de l'Argentine. Et quelques années plus tard, eh bien, la situation s'est améliorée et finalement, les relations ont repris. Donc, ceci aussi veut dire que, eh bien, si l'on souhaite se passer d'un programme du FMI, c'est possible. Simplement, ça ne veut pas dire que ce sera aussi, ce sera plus facile de cette manière-là. Parce que quand on vit au-dessus de ses moyens, on vit au-dessus de ses moyens, et donc il faut réduire son train de vie, quoi qu'il arrive.
C'était bien l'illustration qu'il s'agissait d'un choix dans les politiques à mener pour retrouver une stabilité.
C'était un choix, c'était aussi un choix
de repli. Il n'y a pas qu'une seule voie possible.
Il n'y a pas qu'une seule voie possible, c'était un choix de repli sur soi. Mais comme je le disais avant, si tous les pays font ce choix du repli sur soi, on risque ce que l'on a vécu entre les deux guerres. C'est pour cela que c'est très important et c'est pour ça que ce fonds a été mis en place. Et comme disait le professeur tout à l'heure, ce sont des États membres qui ont mis en place ce fonds. Le FMI, c'est pas un FMI comme ça. C'est le monde entier qui a mis dans un pot commun ces fonds. Dans ce fonds sur 100, les États-Unis c'est 16, a mis 16, la France a mis 4, l'Allemagne a mis 6, et chacun prête, et effectivement, donc c'est le contribuable de chaque pays du monde qui, en quelque sorte, prête à ces pays-là pour dire ne faites pas du repli sur vous, mais tentez plutôt d'avancer avec nous.
Natacha Valla, le FMI n'est pas autonome dans ses décisions, c'est le reflet de la volonté, ou en tout cas du consensus de la volonté générale.
Ça doit être en tout cas le reflet de la volonté de ses actionnaires. Et ce qu'on appelle la doctrine du FMI, c'est pas une vérité. L'erreur qu'on a faite par rapport au FMI, ça a été de vendre pendant des dizaines d'années l'idée que les programmes du FMI, avec les réformes structurelles, avec les coupes budgétaires, c'était la seule façon de faire pour remettre un pays sur ses pieds macroéconomiquement. On sait aujourd'hui que la réflexion peut être beaucoup plus nourrie, mais je suis d'accord avec tout le monde ici pour dire qu'on a aujourd'hui des fonds publics, on met sur la table des fonds publics, il y a beaucoup de bons côtés associés à ça. Et il faut faire en sorte que ces fonds publics soient récupérés par les contribuables qui sont amenés à les financer, mais aussi d'une manière qui mette aussi les pays qui en bénéficient sur une voie d'une reprise durable et d'une croissance potentielle assez importante à moyenne échéance. Je voudrais donner un autre exemple que vous connaissez sans doute mieux que moi, l'exemple du Venezuela. Quand le président Chavez a dit au FMI au début des années 2000 « Je ne veux plus vous voir. Vos missions, article 4, donc les missions de... J'en ai plus besoin. » Le Venezuela s'est retrouvé un peu face au vide le jour où il a fallu demander de l'argent sur les marchés. Plus d'argent sur les marchés, plus de FMI en face pour venir financer les dépenses de l'État et pour maintenir l'économie à flot, c'est la Banque de développement chinoise qui s'est mise en face du Venezuela. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais que les critiques ou les visions qui ont un peu d'informations internes au Venezuela sont assez dubitatives. Les Chinois sont arrivés, mais avec très très peu de transparence dans la façon dont les choses ont été financées, le coût du financement, quelles étaient les contreparties. Au moins, l'avantage avec le FMI, c'est que les contreparties sont claires. Elles ont sans doute été erronées pendant longtemps, et on peut en discuter. Mais en tout cas, il y a une transparence qui est vraiment extrêmement louable aujourd'hui, où finalement, les bailleurs de fonds se sont multipliés, aussi à la faveur de la réforme ou la non-réforme de gouvernance dont on va peut-être parler tout à l'heure. Mais en tout cas, finalement, quand on n'a pas le fonds en face de soi, on a quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, il n'est pas forcément aussi, entre guillemets, bien intentionné.
Alors, vous avez dit le FMI reflète la volonté de ses actionnaires, mais les actionnaires, donc, il y a 188 membres, les actionnaires n'ont pas tous le même pouvoir de décision. Il est pondéré en fonction des fonds qui sont versés. Aujourd'hui, les États-Unis sont l'actionnaire majoritaire. Dominique Caro, comment croire que les États-Unis vont prendre des décisions en fonction de l'intérêt du pays aidé ou de l'ensemble de la planète et non pas en fonction de leurs intérêts à eux?
Alors un professeur est incontrôlable, vous allez le voir. Avant de vous répondre à votre question, une remarque sur l'Argentine qui me semble importante. La crise argentine de 2001 est quand même due initialement au programme développé par le Fonds monétaire international et que l'Argentine a mis en place avec notamment le rapport fixe dollar-peso. C'est ça qui a échoué et c'est ça qui a contribué à la crise. Deuxièmement, quand on vient me dire qu'il y a un choix parler avec le FMI ou aller à son propre choix, l'Argentine l'a fait, baisse du niveau de vie 25%. Alors est-ce que c'est véritablement un choix de ne pas vouloir faire certaines réformes sur le temps que le FMI vous demande et de dire non, on fait rien du tout et on appauvrit encore plus sa population? Moi je pense que c'est un choix assez facile à faire.
Alors sur ce point-là, la Grèce, on peut peut-être le comparer à la Grèce qui bénéficie d'une aide du FMI, évolution du niveau de vie en Grèce, on est aussi dans un sens à la baisse.
C'est exactement ça.
Mais donc alors qu'on se prive, qu'on ait recours au FMI, c'est un peu le même résultat.
Y compris au risque aux références de la France, et de dire où on a une politique raisonnable, telle qu'elle est jugée, non pas par le FMI, mais par les marchés, et telle que c'est apprécié par les agences de notation, qui sont beaucoup plus importantes, et qui, si vous faites trop de déficit, etc., ne vous prêtent plus, ou à des taux où vous ne pouvez plus. Aujourd'hui, notre ami économiste me contrôlera si je me trompe, mais on dit à un État que la limite au-dessus de laquelle il n'a plus la capacité de se refinancer sur les marchés, c'est le financement normal, c'est pas le FMI. Le FMI n'est qu'une béquille qui vous permet de revenir sur les marchés. C'est 7%. Au-delà d'un taux d'intérêt de 7%, on dit non, vous ne pouvez plus. Le choix, c'est la défaillance, l'Argentine, ou d'aller sous les fourches caudines du Fonds monétaire, c'est-à-dire le cas de la Grèce. C'est ça votre choix, il n'y en a pas d'autre. Donc si vous voulez, les Grecs aujourd'hui, ils ont dû accepter ce qu'ils avaient refusé quelques mois avant officiellement. Donc c'est un problème pour toute la subtilité grecque pour accepter une chose qu'on a formellement refusée trois mois avant. Mais aujourd'hui, il y a une baisse du niveau de vie en Grèce et qui va continuer. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que probablement, ça aurait été pire si la Grèce était, comme l'on dit, sortie de l'euro, avait fait comme M. Chavez avait dit au revoir au Fonds monétaire international. Donc, c'est le moindre des mots. Mais il faut quand même bien dire une chose, si vous voulez, c'est que ces situations difficiles des États, c'est dû à une sorte de mauvais gouvernement de la part des États. C'est que les États ont mal géré leurs finances. C'est ce qu'avait vu le général de Gaulle. Le baron Louis aussi avait dit à Louis XVIII, faites-moi de bonne politique, je vous fais une bonne finance. Si les gouvernements actuels, et moi quand je suis rentré dans l'université, j'ai commencé à faire un cours de finances publiques, dette d'État, zéro. Il n'y en avait plus, dette d'État aujourd'hui, près de 100% pour la France. Voilà la situation.
Alors, pour qui roule le FMI? Je rappelle que c'est la question qu'on pose ce soir. On en discute avec vous, Natacha Valla, Dominique Caro et Stéphane Cossé. J'évoquais tout à l'heure la question du pouvoir de décision au sein du FMI. La Chine, grâce à une réforme récente, a acquis un petit peu plus de pouvoir de décision récemment, ainsi que certains pays émergents. Les États-Unis restent tout de même le premier actionnaire. Voilà, comment être certain que les actionnaires vont... la question que je posais tout à l'heure, servir les intérêts généraux et non pas leurs intérêts privés. Stéphane Cossé.
Écoutez, il reste une réalité, même après cette réforme, les États-Unis, ça, c'est 16% des droits de vote. Alors 16% des droits de vote, vous pouvez dire que ce n'est pas énorme, mais il y aurait la minorité de blocage est de 15%. C'est un peu comme un conseil d'administration. Vous voyez le conseil d'administration
d'une entreprise. Donc les États-Unis sont le seul à avoir un droit de veto.
Absolument. Donc,
l'Europe pourrait l'avoir, même après
cette réforme, les États-Unis ont toujours une minorité de blocage. Et c'est pour ça que la réforme des droits de vote ne pouvait pas être mise en œuvre avant le vote du Congrès américain la semaine dernière. Donc, cette minorité de blocage, elle reste une réalité. Ce qui est intéressant, c'est que l'Europe elle-même, la zone euro elle-même, c'est 22%. Si on additionne tous les droits de vote des États.
À condition de se mettre d'accord, donc.
À condition de se mettre d'accord. Le Juncker a fait des propositions pour qu'il y ait une seule voix, un seul vote, en quelque sorte, cette minorité de blocage possible de la zone euro. Pour l'instant, les États européens ne sont pas d'accord. Parce qu'ils disent, je préfère être la voix de la France, je préfère être la voix de l'Allemagne, je préfère être ma propre voix, y compris au Fonds monétaire international, plutôt que me mettre d'accord. Il y a des efforts de coordination, mais il reste qu'il n'y a pas une réalité, il n'y a pas un seul fauteuil d'administrateur de la zone euro au FMI. Et puis le dernier point, c'est la Chine. Oui, la Chine, deuxième puissance économique mondiale, selon les statistiques sont différentes, mais grosso modo, deuxième puissance économique mondiale, après cette réforme, c'est 6%. Par rapport à 16%. C'est le niveau du Japon, si vous voulez. Donc, tout cela évolue de façon assez lente, mais il est vraiment important de voir effectivement bien cela comme un conseil d'administration avec des États membres qui ont chacun effectivement leur poids et que cette géostratégie du FMI, elle s'exprime effectivement à travers ses voix.
Natacha Valla, sur cette question.
Mais précisément, moi je trouve que tout le processus, ça a été une saga. Il faut quand même rappeler le fait que ce qui a été décidé effectivement au mois de décembre, le fait que le Congrès américain ait avalisé ce qu'on a appelé la 14e revue des quotas, selon les nouveaux chiffres qui viennent d'être rappelés, ça a été lancé en 2010. Donc ça fait pratiquement 5 ans qu'on est sur une discussion qui aurait dû avoir lieu bien avant, qui est celle de finalement du reflet de la réalité économique mondiale au sein des instances de gouvernance du Fonds monétaire international. On y est tous allés à reculons, les États-Unis les premiers. Les États-Unis finalement, ils ont sauté dans le bateau au bout in extremis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien vu que finalement, s'ils acceptaient pas, le monde allait avancer sans eux, que le FMI ça serait devenu un bateau ivre, en train de sombrer, et que de toute façon, le monde émergent nous a pas attendu. Le monde émergent n'a pas attendu le FMI pour mettre en place des institutions, j'en parlais en début d'émission, des accords régionaux, des institutions un peu périphériques à tout ce qui peut se passer au niveau du FMI, et que finalement les crises pourraient se résoudre, j'allais dire facilement, ça se résout jamais facilement une crise financière, mais en tout cas pourrait se résoudre de façon très pragmatique en dehors des possibilités offertes par le FMI. Donc le FMI est aujourd'hui obligé. Il est en face d'une réforme nécessaire de sa gouvernance. Et pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, je trouve assez, j'allais dire scandaleux, mais peut-être décevant, c'est le mot le plus juste, de voir que les Européens, aujourd'hui, ne sont pas capables de se mettre ensemble autour de la table et de dire, finalement, on pourra avoir un poids quand même très important à la table de négociation du FMI, donc y compris dans la façon dont on met en place les programmes, dont définit la philosophie du FMI, si on était capable de renoncer à nos droits individuels en tant qu'État membre, et on n'est pas capable de le faire. Donc il y a un peu une sorte de schizophrénie entre d'une part une facilité à critiquer les programmes du FMI, qui sont dans le fond quand même pour protéger l'argent des contribuables, et d'autre part une incapacité à faire en sorte que la gouvernance soit apte à les régler.
Alors, vous parlez des institutions parallèles qui ont été créées par certains. La Chine a justement créé récemment la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. L'enjeu, c'était quoi? De réformer le FMI avant que les puissances émergentes ne décident de s'en passer, de le quitter?
Non, ça visait la Banque mondiale. Ça visait l'autre bras armé. Mais si vous voulez, sur le Fonds monétaire international, j'aurais fait juste une remarque, c'est que le poids du Fonds monétaire international vient de ses actionnaires, bien sûr, mais il vient aussi, vous disiez, pour qui roule le Fonds monétaire? C'est une discussion privée qu'on a vue. Bon, je lui dis, roule pour les banques. Et oui, les banques créancières, c'est elles qui exigent que le Fonds monétaire international passe un accord de confirmation, des lettres d'intention, tout ce qu'on veut, avec les pays aidés et les créanciers, évidemment.
Les banques privées, donc.
Les banques privées, bien sûr. Mais ce sont les créanciers. Aujourd'hui, les milliers de milliards qui sont prêtés en grande partie par des banques ou des institutions financières. Et celles-là, elles ont comme gestionnaire, si vous voulez, comme boussole, les agences de notation, en disant combien vaut le crédit de telle ou telle chose. Et si le pays ne se comporte pas bien, il y a un programme du Fonds monétaire international, ça me donne confiance et je vais reprêter à ce pays. Et pas de programme, on revient sur la Grèce, pas de programme du FMI à la Grèce. La Grèce ne peut pas emprunter sur les marchés. Pour emprunter sur les marchés, qu'est-ce que vous faites? Banqueroute.
Il n'y a pas un problème démocratique, justement.
Si vous dites que les banquiers ne sont pas démocratiques, les banquiers veulent récupérer leur argent ou l'argent de leurs déposants. Et ils perdent, ils en perdent de temps en temps quand même. Donc il faut qu'ils fassent des profits de temps à autre.
Stéphane Cossé.
Oui, enfin, une autre façon de présenter les choses, c'est de dire que le FMI roule pour les banques, c'est-à-dire que le FMI est un catalyseur. C'est un catalyseur. C'est vrai qu'une banque privée hésitera à prêter soit à des investisseurs dans le pays, parce qu'il n'est pas sûr que le pays soit en mesure, et l'emprunteur soit en mesure de le rembourser. Donc à ce titre-là, c'est une sorte de blanc-seing pour dire « oui, je peux prêter aux investisseurs locaux ». Ça ne veut pas dire qu'on roule pour les banques, ça veut dire simplement qu'il y a cette garantie, en quelque sorte, d'un programme économique qui est relativement sain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît important de dire, dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est la constitution du G20. Le G20, finalement, c'est donc les 20 premières économies mondiales, dont la Chine, qui finalement contourne un peu le rôle du FMI, qui est assez lourd compte tenu de cela, et qui, sur les grandes questions macroéconomiques internationales, notamment de stabilité financière, joue un rôle important, qui est un peu concurrentiel avec celui du FMI, mais qui permet d'avoir ce dialogue et de contrebalancer un peu le fait qu'il y a ce déséquilibre dans les droits de vote et permet peut-être un peu plus de fluidité dans le dialogue économique international.
En 2013, par la voix de Christine Lagarde, le FMI avait confessé un échec du sauvetage de la Grèce. Il avait même présenté ses excuses. À ce moment-là, le chroniqueur Bernard Guetta, pour Libération, c'était le 15 octobre 2013, parlait de révolution. Il a dit « Le FMI appelle à augmenter le taux d'imposition des plus riches. C'est un peu comme si le Vatican prônait soudain l'agnosticisme. » Deux ans plus tard, on en est où de cette révolution, Natacha Vallard?
Il y a un petit peu des effets d'aubaine. Effectivement, pour moi, la Grèce, ça a été une révolution copernicienne pour le FMI, à commencer par le fait qu'on a fait défaut sur le FMI pour la première fois. C'est-à-dire que le FMI, en juillet 2015, devait recevoir une tranche de paiement de l'État grec et ne l'a pas reçue. Donc ça a remis en cause un petit peu le modèle. C'est vrai aussi qu'avec les dirigeants récents du FMI, on peut remonter à M. Strauss-Kahn.
Il y a un tournant à partir de l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn
dans
au FMI.
Dans une certaine mesure, on a vu des rapports du FMI sortir un peu sur l'inégalité, l'exploitation de thèmes qui étaient déjà présents. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le FMI, c'est un ensemble formidable d'économistes. Alors, c'est essentiellement ou pratiquement que des économistes. Il y a sans doute aussi des juristes, mais c'est quand même une institution d'économie. Il y a des gens qui ont des bonnes idées dans cette institution-là. On ne leur donne pas les moyens toujours de les exprimer avec la liberté qu'ils souhaiteraient. Mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur les inégalités au FMI depuis des dizaines d'années. Or là, ça commence à devenir un thème. De même que la résilience macroéconomique, des choses qui étaient encore impensables avant la crise européenne de la part du FMI.
Conclusion, Dominique Caro, Stéphane Cossé, il y a une évolution, un infléchissement dans l'idéologie économique du FMI, ou la philosophie économique. Stéphane Cosset.
Je crois d'abord qu'il faut éviter de caricaturer là aussi quand lorsqu'on dit que le FMI ne veut pas taxer les riches, c'est faux. Le FMI voulait taxer les armateurs grecs avant tout le monde, ils n'ont pas réussi à le faire. Il y a aussi une souveraineté des États. Donc le FMI prend en compte. Parce que ce sont des États membres. Les États membres évoluent dans leur conception, dans leur réflexion économique. Et donc le FMI évolue au même titre que les États membres évoluent.
Dernier petit mot, Dominique Caro.
Oui, avez... c'est vrai. Ça, mais le Fonds monétaire, de temps en temps, a une action de sa part. Par exemple, vous parliez de la pauvreté. C'est quand même un ancien directeur général français, M. Kamsu, qui, pour la première fois, a poussé le Fonds monétaire international à se pencher sur les conséquences sociales des programmes économiques sur les États. Donc, les directeurs généraux, de temps en temps, ensuite M. Kamsu, mais on pourrait citer les autres Français, M. Strauss-Kahn ou Mme Lagarde, ont pu mettre leurs pattes. Mais toujours, c'est des présidents de conseils d'administration, on l'a bien dit, et les actionnaires sont les États.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Dominique Caro, Stéphane Cosset, Natacha Valla, les références vers vos ouvrages ou vers les institutions dans lesquelles vous travaillez sur notre site à la page du Grain à Moudre. Commentaires, réécoute, podcast, c'est également là que ça se passe sur franceculture.fr. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Mathilde Barbier, Fanny Richer, Antoine Dulster et Kieran Gessel. À la réalisation Jean-Christophe Francis. Prise de son ce soir, Bruno Gagnère Fontanil. Demain, de quoi parlerons-nous au réveillon ?